sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écoutait. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Cette émission est sans doute la plus implicante depuis que je me livre à cet exercice. C'est normal, c'est une émission de février. Février, c'est le mois de ma naissance. C'est aussi le mois où sont nées ma grand-mère et mon père. C'est aussi le mois de leur mort à tous les deux. Et puis, février, c'est aussi le mois du cochon. Il y a quelques années, j'ai commencé à écrire autour de la mort du cochon. Entre recherche, voyage, rencontre, collectage, j'ai vécu au rythme du cochon. J'ai respiré à son souffle et patiemment j'en ai défoui un spectacle qui attend encore son moment mûr pour se partager. En ce mois de février, j'ai choisi de vous en partager quelques fragments, quelques morceaux épars. C'est en février que j'ai tué mon premier cochon avec des amis. Je tenais pas le couteau, mais j'étais là, juste à côté, au plus près du dernier battement de sa carotide, et je me souviens très bien du dernier souffle de ce cochon. Sa mort était en train de me ramener à quelque chose de connu, un passage de seuil déjà franchi le jour de la mort de mon père et puis traversé encore tandis que je donnais la vie à chacun de mes enfants. Ce cochon, en mourant, était en train de m'inviter à une sacrée traversée. À la manière d'un conte ou d'un rêve, quand il s'occupe de nous tenir bien réveillés, il venait m'engager à suivre sa trace et fouiller son histoire. Alors, je me suis mise en chemin, en me laissant travailler par sa chair, sans vraiment comprendre où tout ça voulait me mener. Je l'ai laissé me guider, me parler. Ce cochon, il avait à m'en compter sur mon humanité. Il avait à m'en dire sur mon rapport à la mort, ainsi que sur l'état de ce monde porteur de mes mondes enfouis. En fouissant patiemment, je suis allée rencontrer d'autres personnes, d'autres vies, d'autres bêtes, pour comprendre que, partout, ce cochon exhumait des trésors de symboles parlant de vie et de mort. En chacune des personnes rencontrées sur mon parcours, ce cochon avait laissé son empreinte. Et chaque évocation faisait remonter des mémoires d'un temps heureux où les hommes faisaient groupe et partageaient des paroles symboliques et des gestes ritualisés pour traverser la mort. Par le souvenir de ce cochon, j'ai pu entendre s'exprimer en chacun l'ancrage d'une culture dans son passé, témoin d'une société avant morcellement. Et puisqu'il s'agissait de parler de morcellement, c'est au mythe égyptien d'Isis et Osiris que ce cochon me ramenait d'abord. Isis. C'est celle qui recolle les morceaux. avec Osiris. Ils se sont rencontrés dans le ventre de leur mère, Nout. Ils se sont aimés, ils y ont conçu un enfant, Horus, le vieux, qui est né en même temps qu'eux. Dans le ventre de Nout, il y avait aussi Nephthys et Seth qui s'aimaient également. Isis, Osiris, Nephthys, Seth et Horus le Vieux sont tous sortis du ventre de Nout et tout s'est passé très vite. Sauf la naissance d'Isis, dont le prénom Is, Is, veut dire doucement, doucement. Osiris est tout de suite devenu un grand dieu, grand de 5 mètres et puis grand aussi de tout ce qu'il transmet. Il apprend aux hommes à semer les graines, à les cultiver, faire pousser, fructifier, moissonner. Il transmet aussi les secrets du vin. Seth, de son côté, est un dieu jaloux, comme un frère. Aussi, pour se débarrasser d'Osiris, il fait fabriquer un coffre très beau à la taille exacte du grand dieu et puis il l'invite à dîner en compagnie d'amis, enfin, des amis à lui. À la fin du repas, Seth promet d'offrir ce beau coffre à celui qui parviendra à y entrer et à l'occuper entièrement et chacun se prête au jeu. Alors Osiris, qui ne se méfie pas, entre à son tour dans le coffre. Et c'est là que les amis, rassemblés, rabattent le couvercle sur lui et Seth fait jeter le coffre dans le Nil. Isis ne tarde pas à découvrir toute l'histoire, alors elle part à la recherche d'Osiris. Dans le même temps, elle découvre que sa sœur, Nephthys, a eu un enfant d'Osiris en se faisant passer pour elle. Nephthys lui a donné le nom d'Anubis et elle le cache parce qu'il a une tête de chacal et ça lui plaît pas vraiment. Isis part donc aussi à la recherche d'Anubis, mais dans un premier temps, elle cherche le coffre d'Osiris qu'elle finit par retrouver caché dans le tronc d'un arbre à Byblos, au Liban. Elle emporte le coffre pour le cacher dans le marécage de Chemnis, au bord du Nil, et partir plus légère à la recherche d'Anubis. Seth, au cours d'une partie de chasse, aperçoit et reconnaît le coffre. Il laisse alors exploser sa colère et découpe Osiris en 14 morceaux qu'il jette un peu partout dans le paysage. Isis, qui entre-temps a retrouvé Anubis, est folle de chagrin quand elle comprend ce qui s'est passé. Aussi, elle repart à la recherche des morceaux d'Osiris, aidée de Nephthys et d'Anubis, qui est devenu son fils adoptif. Elle retrouve et collecte patiemment 13 morceaux. Le 14e morceau, le sexe d'Osiris, a été avalée par un poisson. Avec l'aide d'Anubis, elle rabiboche les 13 morceaux patiemment et avec amour. Tissus de lin, baumes et onguents. Ensemble, ils sont en train d'inventer l'embaumement, la momification. Puis aidés de Nephthys, transformés toutes deux en oiselles, elles font de l'air en battant des ailes et redonnent ainsi souffle au grand Osiris. Et Osiris réparé est tellement beau qu'Isis le désire très fort. Et puisqu'il manque le 14e morceau, elle s'en va lui en fabriquer un avec de la terre mélangée à sa propre salive. Puis ayant placé le morceau, avec Osiris, elle conçoit un nouvel Horus. Osiris, revenu du monde des morts, va choisir de rester à la frontière des deux mondes. Et là, il va s'occuper de peser les cœurs des hommes nouveaux morts, pour en juger les âmes. Les Égyptiens, pendant longtemps, vont sacrifier annuellement un porc en l'honneur d'Osiris. Puis, la viande de porc étant au fil du temps jugée impure, le cochon va se trouver associé au dieu Seth, alors représenté par un porc noir, dévorant la lune. Il est 1h du matin. Je suis épuisée, mon tablier est maculé de sang et de graisse, tout est calme. Sous la grange, on vient de finir la mise en pot des mursons. Les mursons, ce sont des grosses saucisses de couenne blanches qui ont des formes éloquentes et la fatigue aidant, on a le fou rire facile. Alors, pour chaque murson façonné, on est en train de célébrer une sorte de baptême. On leur donne tous les noms. Popole, Bobby, Zgeg, Zobi. C'est pas les idées de prénoms qui manquent pour nos mursons nouveau-nés, ils sont tout ronds, joufflus et presque excitants avec leurs faux airs de morceaux perdus d'Osiris. Ils nous invitent à la cochonnerie et nous on y va franco de porc. On est rincés, vidés dans le pâté. La fatigue ayant abattu toutes nos résistances, le rire se perd sous la ceinture et on se prend à ressembler à un internat collégien en train de pouffer sous les draps. La bassine d'eau bouillante nous fait les gros yeux à la surface. On a pesé chaque morceau. Même le cœur, on l'a pesé. Puis on a tendu des draps blancs sur des grandes planches posées à même des tréteaux et sur les draps, on a déposé chaque morceau. Rôti, jambon, poitrine, saucisse, murson, jarret, filet mignon. On les a couchés là comme des bébés nouveau-nés et tout ce petit monde en morceaux a l'air de dormir son premier sommeil sur le coton blanc. Il neige. Doucement, les flocons redessinent le paysage et enclosent le son dans un caisson de silence. La nuit se fige dans cette atmosphère ouatée comme seule la neige s'est fabriquée et moi je quitte la nurserie sur la pointe des pieds et j'offre mon visage à la danse des premiers flocons. Il neige. Je prends le frais. Chaque flocon à ma joue sonne le réveil de tous les sens. Une page blanche vient s'offrir, alors la tête encore vibrante de cette journée éreintante. Je décide que je vais écrire. Je vais ouvrir au cœur de la nuit une porte d'écriture. Partir du morcellement pour trouver l'unité. Rassembler les morceaux et à travers ce cochon, retrouver les liens qui unissaient les hommes autour de la mort pour apprendre à la traverser. Le jour où il est né, sa mère l'a baptisé Michel parce qu'il va mourir. En un seul morceau, Michel parce qu'il va mourir. C'est l'hiver le plus dur au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. On est en février 42 et il neige des obus et la terre vole autour des tranchées qu'on a creusées pour se protéger. Elle vient de mettre son petit au monde et sans y poser un regard, elle dit simplement « il va s'appeler Michel parce qu'il va mourir ». Elle peut pas faire mieux. Elle-même, elle n'a pas vraiment eu de prénom à elle. Pour fuir la Pologne à 16 ans, elle a dû échanger son prénom contre celui de sa sœur, Anna. Et pour pouvoir continuer à vivre, elle a laissé mourir Aniela, la Polonaise, et pour la France, elle est devenue Anna. Elle est allée s'entasser dans un train rempli de Polonais qu'on a ensuite jeté un peu partout sur les campagnes françaises. La plupart laissaient une sombre histoire derrière eux, et même si on en rêvait souvent, on savait bien que la France n'allait pas forcément offrir son lot de jours meilleurs, on n'avait pas le choix. On venait en France pour chercher du travail et la France avait besoin de bras, bah, ça tombait bien parce qu'ils en avaient plein des bras, les Polonais. Ils avaient besoin d'un morceau de France, enfin chacun tentait sa chance, on verra, comme dirait le cochon. En France, Anna a mangé son pain noir, un pain tellement noir qu'en fait on n'en voyait même plus la couleur, mais elle n'était pas toute seule. Il y avait les autres. Et tous ces Polonais, ça se collait ensemble à la culture commune pour tenir le coup, pour pas se perdre. Pour garder la langue, les mots, les gestes et puis le rire surtout. Les Polonais, ils restaient abibochés pour tous les coups. Les coups à boire, les coups de gueule, les coups de blouse, les coups durs. Ils étaient copains comme cochons, ces Polonais. Et entre cochons, on savait faire la fête et partager sa pitance. Et Anna, elle aimait bien ça, la fête. Elle aimait danser et rire. Elle aimait bien cet homme aussi qui jouait du violon dans les fêtes. Alors, son ventre s'est arrondi. Elle a porté un gosse, puis deux. Et puis quand le troisième est venu y planter sa graine, il n'y avait plus de place. Et plus elle le rejetait, plus elle sentait que celui-là, justement, il allait s'accrocher. À 6 mois et demi, elle est parvenue à l'expulser sans préavis. Michel, parce qu'il doit mourir, est né vite, vite. C'est un petit lardon tout fragile, pas bien fini, pas bien équipé pour la vie, alors on va lui donner un lit à la mesure du pronostic vital. Une boîte à chaussures, bourrée de coton. Va-t-on survivre avec ça ? On verra, comme dirait le cochon. On est le 7 février 42, au beau mi-temps de la guerre, en plein bombardement. Michel, parce qu'il va mourir, vient de naître sous une bonne étoile. Il est vivant, il va vivre. Il va survivre, vivre, il va même donner la vie. Il neige.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. The way that things have been. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one, not the cell, I'm the mistress of my sea. Yeah, the mistress of my sea. I was broken from a young age, taking my sulking to the masses, writing my poems for the few. Look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, oh let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate you've heard, I turn your spirit to a dove. Yeah, your spirit up above. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. But they never did, ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me a, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me up, believer, believer. Pain, oh let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Last things last, by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. You're the blood in my veins. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me a, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, oh let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer.
Il paraît que le cochon est tellement proche de l'homme qu'on peut greffer de sa peau ou même transplanter ses reins, son foie ou son cœur à l'homme. Il paraît qu'une truie pourrait même se faire mère porteuse de bébés humains le temps de quelques heures. On dit aussi que la viande du porc et celle de l'homme sont très semblables. Quand on a tué notre cochon, on ne savait pas grand-chose. Chacun a dû chercher sa place autour de cette bête un peu maladroitement. On avançait au jugé. C'est comme ça que les gars se sont mis à ébouillanter, racler, découper, tandis que les filles ont préféré s'occuper du sang et des boudins, lavant les viscères et maniant le hachoir, faisant les salaisons et préparations culinaires. On ne savait pas alors qu'on était en train de reprendre des places inscrites bien avant nous et fortement assignées. En effet, autrefois, dans les campagnes françaises, la femme va occuper une place très symbolique autour du cochon. À la frontière entre la mort et la vie, c'est elle qui va étendre les draps de coton qui recevront chaque morceau. C'est elle qui va se charger du sang. Elle sait les plantes qui soignent et assaisonnent. Elle s'occupe de cuisson. La femme lave à grande eau les viscères qui recevront la préparation des boudins. Elle sait. Parce que c'est cette même femme qui sait l'art de mettre au monde les bébés, offrant au nouveau-né sa première toilette et son premier drap de coton. Certains écrits relatent comment, dans de nombreuses régions, lorsque les boudins sont façonnés, on célèbre pour eux une sorte de baptême, comme pour des nouveau-nés. La femme connaît le sang. Son sang, qu'elle accueille à chaque lune, est celui des blessés quand elle s'occupe de soigner. C'est elle aussi qui assure la toilette du mort, qui donne au corps défunt son dernier drap de coton. Autour du cochon, la femme est une passeuse. Juxtaposés ainsi au début et à la fin de la vie, les gestes qu'accomplit la femme qui aide éclairent la nature de son travail. Elle a aux deux moments une même activité de nettoyage et l'essentiel du rôle réside dans l'acte de toilette. Geste de lavage des corps au sens propre, geste d'habillage, geste d'appropriation des lieux, même remue-ménage autour du grand lit dans lequel on naît, on meurt, même déploiement de grands draps, de linge changé, brassé, lavé, geste symétrique et inverse. Que le nouveau-né soit débarrassé des impuretés qui l'amènent de l'au-delà, que le mort n'en emporte pas. Quoi qu'il en soit, retenons pour le moment qu'elle lave Yvonne Verdier. Façon de dire, façon de faire. Vient le jour de la tuer, et puis le jour du partage. Les rapports, si divers, à la bête vivante doivent se retrouver ici déployés et d'une certaine façon amplifiés quand on divise sa chair et quand on la transforme, quand on classe et répartit chacun de ses produits distincts. À nos yeux, en tout lieu, cette mort, ces traitements, cette cuisine tournent autour du même axe analogique que chaque tué vérifie et proclame encore, car la bête ouverte impose sa ressemblance. Elle est notre miroir. Elle révèle une commune origine décelable dans les viscères, dans le sang, et puis dans certains os. Claudine Fabre-Vassas, la bête singulière. Notre cochon, on l'avait appelé Barbara. Comme si l'affublé de ce nom allait nous disculper du geste de mort qu'on se préparait à lui donner. On nous a beaucoup dit que c'était une drôle d'idée, qu'il valait mieux pas donner de nom, que ça facilitait vraiment pas la tâche, mais nous, on sentait que c'était mieux comme ça. On partageait pas forcément un lien profond avec elle, elle vivait sa vie de cochon, et puis nous, on vivait la nôtre. Moi, je l'ai rencontrée que 2 ou 3 fois, en passant. C'était un beau cochon. Elle était confiante et massive, elle venait jusqu'à nous en trottant au bord du clos et elle agitait comme des drapeaux ses 2 grosses oreilles qui couvraient ses yeux avec des grognements que je prenais pour de la joie. Puis elle se laissait gratouiller la couenne. J'aimais bien ses yeux. J'aimais bien sa force tranquille. Les semaines avant sa mort, l'ami qui l'élevait était venu installer une potence au milieu de son clos. Comme ça, chaque matin, en même temps qu'il venait lui donner sa pâtée, il lui attachait les pattes arrière au palan et puis il moulinait doucement pendant qu'elle mangeait. Tac, 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 tac. Elle se soulevait par l'arrière tout en continuant son repas. C'était devenu quelque chose de normal, comme un rituel. Aussi, le jour de sa mort, Barbara n'a rien vu venir. La pâtée est arrivée, tandis que le palan lui a levé l'arrière-train. Tac, 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 tac. Et elle a commencé à manger. Et on était là autour d'elle, un petit peu tendue. conscient du gros mensonge qu'on était en train de lui servir en même temps que sa pâtée. Et moi, je tenais le seau pour récupérer le sang. Le couteau était prêt dans les mains du Seigneur. Tac, 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 tchac. Un coup de couteau net qui vient trancher la carotide. Et moi, je tiens le seau. Le sang s'écoule en flot. Je suis pas fière. Attention, elle bouge. J'aimerais lui demander pardon. Le seau, bon sang, mais bouge le seau, on est en train d'en perdre plein. J'aimerais lui dire que c'est rien, que c'est juste un passage, qu'après ça va aller. Et elle, elle est prise dans des soubresauts. Les soubresauts d'un dernier combat, la tête à l'envers, elle lutte jusqu'au bout. Et son souffle s'échappe par la blessure et devient râle. Secouée comme électrique, elle souffle son reste de vie par cette brèche qui ouvre un fleuve de sang entre les deux rives. Et moi, je tourne les sangs pour éviter qu'il ne fige. Et je pense à mon père. C'est vite passé une vie. Trois petits tours et puis s'en va. Le jour où mon père est parti, nous, on n'a rien vu venir. Il m'a fallu souffler 36 chandelles avant que les morceaux ne se soient recollés. En cendres, au fond de sa boîte, il a continué de reposer tandis qu'au-dessus, les vivants s'occupaient de partager ses restes. Quelques outils, des litres de calva, quelques vêtements qu'on n'avait pas le goût à acheter. Moi, j'ai récupéré sa dame Jeanne. La dame Jeanne, c'est une grosse bonbonne de verre dans laquelle il cultivait des mers. Ouais. Elle a le ventre rempli de mer pour le vinaigre, dame Jeanne. Et elle palpite entre mes mains, avide de réveiller les petites méduses qui flottent dans son ventre tout rond. La vie est là. Et ma dame Jeanne est tellement pleine de petits que je décide de changer son nom. Je la rebaptise dame Nout. Dans le pot à vinaigre, un peu de vin attend qu'une mère vienne s'y plonger pour jouer les alchimistes. Je la retourne la tête en bas pour puiser dans son ventre une de ces mères que mon père y a déposée de son vivant. Le col est étroit. La petite méduse glisse comme elle peut, cherchant péniblement son chemin, et puis elle pointe enfin la tête et dans une ultime poussée. La petite matrice toute de vie palpite au creux de mes mains. Je m'arrête. Je respire. Puis tout doucement, je libère la petite mère en la plongeant dans le vin. La vie continue, il neige. Et je pense à mon père. Son cœur lesté d'amour, ses fameux jeux de mots, son goût pour la sentence et cette façon tellement à lui de dire tout le temps avec des airs de point final. On verra. Comme dirait le cochon.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun in your eyes, the head is in your hair. They seem to hate you because you're there. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not stand there on my own. walking me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry, it's so wonderful, wonderful life. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy and not so alone. Look at me here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry, it's so wonderful, wonderful life. No need to run and hide, it's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry, it's so wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life.
Ce que je viens de partager, c'est une toute petite portion de cet intense travail que j'ai mené autour d'un tellement vaste sujet. Au fil de mes recherches, je m'y suis régalée des ouvrages des deux anthropologues Yvonne Verdier, façon de dire, façon de faire, et puis Claudine Fabre-Vassas avec sa bête singulière. Vous retrouverez les références aux musiques et extraits sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire-Desmarais pour la réalisation. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio-La.